OK, on va commencer notre 39e leçon dans notre série « Le péché, les dix commandements, la grâce ». Nous allons regarder ce matin la doctrine de la souveraineté de Dieu sur les hommes. Alors, dans notre dernière leçon, on avait proposé une définition de la souveraineté de Dieu. Elle se disait comme suit. C'est le fait que Dieu a, de toute éternité, décidé, choisi et déterminé le cours de tous les actes et événements sans exception de tout l'univers, pour toute l'éternité à venir. Nous avions également vu que l'Éternel a le droit de régner pour deux raisons. Il est premièrement le créateur de toutes choses et deuxièmement, toutes choses lui appartiennent. Alors on avait aussi rappelé la nature de son pouvoir qui est absolu parce qu'il détient tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, qu'il ne rend de compte à personne et qu'aucune forme d'opposition n'est possible. Quant à l'étendue de son règne, nous avons vu qu'il s'étendait sur les anges, bons et mauvais, sur toute la création, sur les hommes, sur l'attribution du salut et sur ses saints. Alors, le premier point qu'on va regarder, Dieu règne sur les hommes individuellement. Alors, il y a beaucoup de versets qui parlent de ça dans les Écritures. On a regardé quelques-uns. Jérémie, chapitre 10, verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche, à diriger ses pas. » On a aussi le Proverbe, chapitre 16, versets 1, 9 et 33. « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et verset 33, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. On a aussi le chapitre 19 du livre des Proverbes, au verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On a aussi Proverbes 21, verset 1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Et on a aussi dans Ésaïe, chapitre 46, versets 9 et 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc, on a vu que Dieu règne sur les hommes individuellement. On aurait pu prendre une multitude d'exemples aussi dans les Écritures. Le deuxième point qu'on va regarder, Dieu règne sur les hommes collectivement. Alors, on va regarder que le Seigneur, c'est lui qui établit les royaumes et leurs dirigeants. Autrement dit, les pays, les hommes pensent que c'est eux qui écrivent, mais dans le fond, la parole nous dit que c'est Dieu qui fait cela. Alors, non seulement il établit les pays, les royaumes, mais il établit également leurs dirigeants. Daniel, chapitre 2, versets 20 et 21. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Aussi, le livre de Daniel, chapitre 4, les versets 23 à 26. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soit passé sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur, le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Alors, il y a beaucoup de passages dans Daniel. C'est un livre riche qui parle de la souveraineté de Dieu. Daniel 5, verset 20, verset 18 à 21. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna, comme au bœuf, de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc, non seulement le Seigneur établit les pays, les royaumes et leurs dirigeants, mais aussi il fixe la durée et la limite de leur territoire. Acte 17, versets 24 à 26. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, autrement dit, tu es en train de dire, c'est lui qui dit quand est-ce qu'un pays va durer de temps, puis les frontières des pays sont établies également par lui. Troisième observation, le Seigneur utilise les nations et leurs chefs dans l'exercice de sa volonté. Alors, il y a un long passage dans les 2 Rois 19, versets 20 à 35, mais c'est un passage important parce que le Seigneur nous montre que, dans le fond, pour juger parfois son peuple, il utilise les nations. Alors Isaïe, fils d'Amoz, s'envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête auprès de toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, « Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime. Sa forêt semblable à un verger, j'ai creusé, j'ai bu des eaux étrangères. Je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessus, et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Intéressant l'image, j'aime beaucoup l'image qu'il utilise. Il en parle comme une nation, comme ayant un mort dans la bouche et que le Seigneur peut diriger comme il veut. Il dit, tu ne rentres pas dans la ville, tu ne tireras pas de flèches. Imaginez-vous une armée de 185 000 hommes. Non, tu ne rentres pas dans la ville, tu ne feras pas ça. C'est extraordinaire, je trouve ça. Moi, c'est des passages, des écritures qui me font jubiler un peu. Quatrième observation concernant le fait que le Seigneur domine sur les hommes collectivement. Il leur donne de l'accroissement ou les fait périr. On a par exemple dans Job chapitre 12, les versets 21 à 25, et plus particulièrement à remarquer le verset 23. Il verse le mépris sur les grands, il relâche la ceinture des forts, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin, il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples, les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Quand on regarde, par exemple, l'Égypte, à l'époque, c'était comme, je dirais peut-être, l'équivalent des États-Unis aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est rendu tout petit. L'Éthiopie, ça a déjà été une grande puissance. Aujourd'hui, c'est rendu tout petit. Alors, quand il dit, donne de l'accroissement aux nations, il permet qu'ils croissent, mais il permet aussi qu'ils soient anéantis, ou presque. Comme l'Égypte, aujourd'hui, c'est vraiment un pays qui, au point de vue international, c'est insignifiant là, comparativement aux États-Unis. Alors, le Seigneur donne de l'accroissement au pays et aussi les fait périr. Autre observation, le Seigneur observe les nations et les juge également. Psaume 66, verset 7. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Psaume 75, verset 4 à 7. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Sixième observation, le Seigneur institue et établit toutes les autorités de la terre. Alors ça, c'est quelque chose à nous faire réfléchir, parce que quand le Seigneur nous dit d'obéir aux autorités. On a plein d'autorités. On a au travail, on a sur les routes, la police, on a des pompiers. Toutes les autorités, les Écritures nous disent que c'est Dieu qui les a instituées. Alors, il faut faire attention dans nos rapports, parce que des fois, on est porté à agir un petit peu avec les autorités, comme le monde le fait. Alors, il faut s'ajuster. Romains, chapitre 13, versets 1 et 2. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Alors, bien entendu, c'est toujours avec la soumission, mais en notant que ce soit des choses qui ne nous demande pas d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Là, Dieu nous autorise à désobéir aux autorités civiles si celles-ci nous demandent de pécher. Troisième point qu'on va regarder, Dieu règne sur tous les hommes, sur tous les domaines de la vie de l'homme. Alors, le premier, le Seigneur détermine le nombre des jours des hommes. C'est intéressant de savoir, la Bible nous dit que le nombre de nos jours a été déterminé par Dieu. Alors, on va mourir à la journée que Dieu a décidé qu'on mourra. Psaume 139, verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Alors, si on est dû mourir à 90, on va mourir à 90. Si on est dû mourir à 20 ans, on va mourir à 20 ans. Deuxième observation concernant tous les domaines que Dieu domine sur tous les domaines de la vie des hommes. Le Seigneur règne sur les succès et les échecs des hommes. Bien sûr, on pourrait prendre plus qu'un verset, on en prend un. Psaume 75, verset 7. « Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Je ne sais pas, dans votre vie, vous avez sûrement déjà dû remarquer ça. Il y a des personnes que vous avez connues qui, à un moment donné, dans leur vie, sont très haut socialement, très haut économiquement, réputation, etc. Et parfois, on les rencontre un an après, ils sont lavés, ils n'ont plus rien, ils sont dans la rue, ils sont divorcés, ils sont malades. Alors, est-ce que c'est un hasard? Non. La Bible nous dit qu'il élève l'un, il abaisse l'autre. Troisième observation concernant le fait que Dieu contrôle souverainement tous les actes des hommes. Le Seigneur aussi enrichit et appauvrit. 1 Samuel, chapitre 2, versets 6 et 7. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Intéressant de noter ça. Autre observation, le Seigneur donne ou refuse le sommeil. 1 Samuel 26, verset 12. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Donc, normalement, ils auraient dû se réveiller, mais l'Éternel les avait donné un sommeil profond à toute l'armée pour qu'ils puissent faire leurs affaires, puis ils sont partis. Puis on sait le reste, là. Le lendemain, David, il a crié au chef de l'armée, « Hey, t'as pas gardé ton roi, tu mériterais la mort! » Il est drôle pareil. Alors, il donne ou refuse le sommeil. Esther, chapitre 6, versets 1 à 11, la fameuse histoire d'Esther. Alors, cette nuit-là, le roi ne put dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et il en trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Térèche, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? » « Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour? » Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire à un homme que le roi veut honorer? » Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? » Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer et le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fait ainsi pour Mardochée le Juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée, le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Ça devait être une scène mourante à regarder. Moi, j'appelle ça le sens de l'humour du Seigneur. C'est vraiment le sens de l'humour du Seigneur. Mais comment ça se fait que c'est arrivé? C'est parce que le Seigneur a privé le roi du sommeil. Et là, il ne savait pas quoi faire dans la nuit. Il dit, bon, ben, sortez donc les livres d'histoire. Là. Rappelez-moi telles affaires. Il y a du monde qui ont dû lire ce soir-là. Là, il a dit, bon, il y a deux eunuques qui ont voulu te tuer. Puis qu'est-ce qu'on a fait pour eux autres? Rien. Fait que là, on voit l'histoire. C'est vraiment tordant, cette histoire-là. Aussi, autre chose, le Seigneur donne la santé et la maladie. Deutéronome, chapitre 28, versets 21-22, versets 27-28 et versets 35. Dans 21-22, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Alors, c'est des avertissements que le Seigneur donnait à son peuple pour désobéissance. Versets 27 et 28, « L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. » Et dans le verset 35, « L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses, d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. On a aussi dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel fut adressée en ces termes, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » Et on sait, par l'histoire, qu'il avait donné 15 ans de vie supplémentaire. Maintenant, autre secteur dans lequel le Seigneur est souverain dans nos vies, le Seigneur est maître de la rétribution. Jérémie, chapitre 17, verset 10. « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et au dernier point, le Seigneur doit être loué et célébré pour sa souveraineté. On lit par exemple dans le chapitre 29 de 1 Chronique, les versets 10 à 13, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vienne la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. » Alors, il faut y penser des fois, de louer le Seigneur pour sa souveraineté dans nos vies. Romains 11, versets 33-36, mes versets préférés. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, comme application, on voit quelques-unes, au moins trois. La première, rendons grâce à Dieu pour sa sagesse dans la direction de la vie des individus. Deuxième application, rappelons-nous et soyons rassurés par le fait que notre Dieu souverain règne sur les hommes collectivement. Gardons à l'esprit que Dieu est parfaitement et constamment au contrôle des événements politiques. On est porté parfois à oublier ça. Troisième application, adorons le Seigneur pour l'agencement de toutes choses et de tous les événements de la vie des hommes. Tout se déroule selon son plan. Son plan est rempli de bonté, de sagesse et de justice. Implorons la grâce de voir sa main dans la providence quotidienne et de garder par ce moyen la paix de l'âme, la sérénité et l'esprit d'adoration. Que Dieu soit loué, béni et adoré éternellement pour sa souveraineté dans la vie des hommes. Amen.
Amen.